Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être présents pour la présentation de ce livre et de son pour recevoir son auteur Pierre-Jean Luisard. Donc Pierre-Jean Luisard vient de publier Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire aux éditions La Découverte. Voilà, alors Pierre-Jean Luisard, nous nous connaissons depuis un petit moment, puisque je me souviens que nos premières rencontres se sont déroulées il y a une bonne dizaine d'années, c'était au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Donc ça faisait déjà un certain temps qu'en tant que chercheur, vous étiez penché sur l'histoire de la région, ses problèmes. Vous avez publié d'ailleurs en 2002, c'était l'année qui a précédé donc l'invasion américaine, La question irakienne. Hein, donc c'est un livre de recherche approfondi sur les équilibres irakiens. Vous avez continué donc sur ce sujet. Vous avez évidemment élargi vos champs de recherche. Vous avez beaucoup travaillé sur les relations entre islam et colonialisme, sur les relations entre laïcité et islam, sur les sociétés civiles musulmanes. Donc vous revoilà aujourd'hui sur l'Irak, à un moment où ce pays est revenu sur le devant de la scène, pour son malheur, mais après une période de relative éclipse. Non pas que la situation en Irak se soit beaucoup, beaucoup arrangée depuis 10 ans, mais parce que un autre conflit régional a pris le dessus en termes d'attraction de tous ordres. C'est évidemment le conflit en Syrie qui en 2011 donc a aspiré toute la lumière. Donc l'Irak, on avait fini par un petit peu oublier ce qui se passait en Irak, notamment aussi parce que les Américains qui avaient occupé le pays pendant 10 ans, donc pendant presque 10 ans, avaient commencé à se retirer. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vu émerger doucement et puis sûrement donc ce phénomène de l'État islamique. Alors Daesh est un acronyme, hein, l'acronyme arabe, donc État islamique au Levant. Ce phénomène donc a explosé un petit peu à la figure de tout le monde. C'était il y a un an lors de la prise de Mossoul, donc la deuxième ville d'Irak. Donc une ville de 2,5 millions d'habitants, deuxième ville d'Irak, donc qui a été prise par les milices de l'État islamique, ainsi que d'ailleurs un certain nombre d'autres cités du nord de l'Irak et de la frontière syrienne, et d'une façon générale toute une grande province de l'ouest de l'Irak qui s'appelle Al-Anbar et qui est en grosso modo la grande région désertique de l'Irak, hein, qui est donc au nord-ouest du pays. Alors, Pierre-Jean Luisard, peut-être pourriez-vous peut-être nous expliquer ce qui a motivé ce petit livre, dont je dis que c'est un petit livre qui tranche un petit peu sur l'actualité immédiate, puisque c'est vraiment, comme son nom l'indique, le retour de l'histoire. C'est un livre qui tente de tendre la toile historique du phénomène, en prenant un petit peu de recul sur la partie la plus brûlante de l'actualité de l'État islamique, c'est-à-dire tout ce dont nous entendons parler, c'est-à-dire évidemment les opérations militaires et puis les opérations terroristes, donc qu'on pourra éventuellement détailler. Mais je crois que vraiment votre propos, Pierre-Jean Luisard, c'est de nous expliquer comment finalement cette irruption de l'État islamique dans notre actualité il y a un an était finalement tout sauf une surprise pour ceux qui suivent la question depuis longtemps.
Bien, bonjour et puis merci pour votre présence. Alors effectivement, le titre « Le piège Daesh ou le retour de l'histoire »,« L'État islamique ou le retour de l'histoire », bon, c'est un clin d'œil à une polémique, peut-être vous vous souvenez, des conseils de notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, afin qu'on ne nomme pas l'État islamique « État islamique », mais qu'on dise bien « Daesh », ce que finalement personne n'a fait. C'était une démarche un peu dérisoire pour tenter de refuser des qualificatifs qu'on ne voulait pas donner à un ennemi. Et ma démarche a été justement de prendre du recul par rapport à une diabolisation qui est faite à juste titre, hein, puisque nous sommes en guerre aujourd'hui contre un ennemi qui a une prétention étatique, hein, donc l'État islamique. Mais il vaut toujours mieux voir ses ennemis tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et le terme Daesh s'est imposé, notamment dans le monde arabe, comme l'expression favorite des adversaires de l'État islamique. Et il me semblait que pour tenter de comprendre les raisons qui ont fait son succès, alors qu'il était, il y a un peu plus d'un an, un simple groupe salafiste parmi d'autres, il faut revenir sur différentes temporalités, un temps court, un temps moyen, un temps long qui nous ramène à la fondation des États au Moyen-Orient et notamment des États irakiens et syriens dont on voit bien aujourd'hui qu'ils sont en cause, c'est-à-dire qu'on est face à un processus d'effondrement politique qui va bien au-delà de l'effondrement des régimes en place, mais qui est celui d'institutions aujourd'hui vieilles d'un peu moins d'un siècle, mais qui n'ont su générer, c'est notamment le cas de l'État irakien, que des régimes autoritaires ou des guerres. C'est notamment le cas, encore une fois, de l'État irakien lorsqu'il a attaqué en 1980 la jeune République islamique d'Iran pour tenter de sauver un système politique qui était en train de s'effondrer au courant des années 70. Voilà, donc c'est un livre qui invite à regarder un protagoniste qui s'est imposé sur la scène moyenne-orientale tel qu'il est, et parfois on me reproche, on me dit, vous ne devriez pas dire l'État islamique, mais le groupe État islamique. Et à cela, je réponds que, d'une part, l'État islamique a des prétentions étatiques, hein, contrairement à Al-Qaïda, et que ces prétentions étatiques, il les met en application. C'est-à-dire que si on reconnaît qu'un État a un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, c'est le cas de l'État islamique, il n'y a pas de pouvoir législatif, puisque l'État islamique entend s'inspirer directement de la charia à travers une vision littéraliste de celle-ci. Mais l'État islamique, contrairement à Al-Qaïda, se veut un État de droit. Et il ne fait pas n'importe quoi dans les zones qu'il contrôle. Il y a des règles qu'il entend respecter et qu'il a respectées pendant assez longtemps, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Et il faut donc voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'elles expliquent une certaine forme d'allégeance des populations à l'État islamique. Sinon, on ne comprend pas comment quelques milliers de miliciens ont pu s'emparer d'un pan entier de l'Irak sans pratiquement tirer un coup de feu s'il n'y a pas eu un soutien local important.
Je reviens sur la dénomination Daesh, État islamique. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, nous les journalistes, quand il a fallu donc en parler quasiment tous les jours. À un moment donné, donc, État islamique, ça c'était effectivement une façon de reconnaître implicitement qu'il s'agissait véritablement d'un État et donc c'était qu'il avait déjà remplacé des États existants alors que c'était pas encore le cas. On s'est dit pourquoi ne pas parler de pseudo-État islamique. Alors à un moment donné, on écrivait ça, pseudo-État islamique. Et puis alors vous avez parlé de Fabius, effectivement, qui a voulu mettre en avant cette dénomination Daesh, qui était une dénomination donc plus péjorative. Aujourd'hui, on hésite toujours entre groupe État islamique et État islamique, mais il semblerait évidemment que la dénomination État islamique finalement se soit quand même imposée. Alors est-ce que c'est un succès pour ce groupe qui était, comme vous le dites, au départ et encore il y a encore pas très longtemps un groupe parmi d'autres, peut-être un petit peu plus important que d'autres, mais en tout cas un groupe parmi d'autres qui n'a vraiment dû son émergence qu'après une guerre fratricide avec un autre groupe très important qui est le groupe, le Front Al-Nosra.
Hein. Oui. Je pense qu'il ne faut pas se cacher la réalité, et dans la mesure où un protagoniste remplit un certain nombre de légitime un certain nombre de qualificatifs, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait, parce qu'en fait nous nous empêchons de le voir tel qu'il est. L'État islamique est-il un État en formation? Oui, selon toute évidence, c'est un État en formation. Islamique, je ne suis pas une autorité religieuse pour dire ce qui est musulman et ce qui ne l'est pas. Donc, en tant que chercheur et en tant qu'historien, je suis obligé de prendre en compte le fait que l'État islamique parle au nom de l'islam et que une partie non négligeable des musulmans en Irak, en Syrie, mais aussi ailleurs, se reconnaît dans l'État islamique. Donc, l'État islamique ne résume pas heureusement tout l'islam, mais cela légitime tout à fait qu'on reprenne cette appellation, parce qu'encore une fois, ce n'est pas, y a une forme de fétichisme, hein, dans le fait de refuser la désignation qu'un ennemi se donne. Mais si cette désignation nous aide à comprendre ses forces et ses faiblesses, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait.
Alors peut-être vous avez parlé des différentes temporalités qui permettent d'expliquer l'émergence d'État islamique. Si on se reporte quand même assez loin, parce que finalement il faut avoir un peu la mémoire, il y a quand même un retour obligé à la chute de l'Empire ottoman, parce que si on se souvient finalement, donc en 1920, donc la région, l'Empire ottoman donc s'effondre après la Première Guerre mondiale, tout à coup il y a un grand vide qui se forme avec des tentatives pour élaborer une nouvelle structure qui serait une royauté arabe. En fait, cette royauté arabe va échouer essentiellement parce que les plus grandes puissances de l'époque que sont l'Angleterre et la France s'affrontent au Proche-Orient et vont se partager la région à travers ces fameux accords dont on parle toujours, ces fameux accords entre un militaire anglais qui s'appelait Sykes et puis un diplomate français qui s'appelait Picot, qui vont donc s'y réunir donc évidemment mandatés par leur ministère respectif, par leur pouvoir respectif, et donc vont tracer ce qu'un jeune historien anglais récent, James Barr, a appelé a line in the sand, c'est-à-dire une ligne dans le sable. Si vous regardez d'ailleurs la frontière entre l'Irak et la Syrie, vous êtes très frappé de voir une sorte de diagonale très longue qui part grosso modo de Jéricho, enfin de la Palestine, et qui va jusqu'à Mossoul grosso modo, à travers de façon rectiligne sur, je vais dire des bêtises, mais sur, je sais pas, peut-être 1000 ou 1500 kilomètres. Voilà. Et donc évidemment, des frontières particulièrement artificielles, comme on en voit d'ailleurs au Sahel, frontières qui évidemment n'avait pas grande signification pour les populations qui se promenaient dans ces régions, et notamment les populations bédouines. Or, justement, l'État islamique donc se réfère nommément à cette rupture artificielle d'un espace humain plutôt bédouin, et donc en appel à la reconstitution peut-être d'un espace commun aux populations de l'époque. Hein.
Voilà, l'État islamique a mis en ligne sur YouTube en juin 2014 une vidéo où il mettait en scène, je cite, l'effacement de la frontière Sykes-Picot. On voyait un bulldozer abraser un monticule qui était le point de frontière entre l'Irak et la Syrie. Alors, on sait que les frontières actuelles ne sont pas celles héritées directement des accords Sykes-Picot. Elles sont plutôt le fait de conférences à partir de 1920 qui vont diviser le Moyen-Orient en différents États. Mais l'idée de l'État islamique était de se poser en tant que justicier d'une injustice que les puissances occidentales, notamment les alliés, les deux vainqueurs à l'issue de la Première Guerre mondiale, dont ces alliés s'étaient rendus coupables vis-à-vis de nombreux peuples de la région. On sait que L'Empire ottoman était un régime dont la légitimité reposait sur la religion, sur l'islam sunnite. Donc c'était un empire multiethnique et transnational qui rassemblait des Turcs, des Kurdes, des Arabes et quelques autres. Et donc
les Il avait quelques ressemblances avec l'Empire austro-hongrois, d'une certaine façon.
D'une certaine façon, oui, si l'on accepte le fait que l'idée nationale était très présente en Europe centrale, la Hongrie notamment l'illustre tout à fait, alors que dans un pays comme l'Irak, par exemple, l'idée de nation était totalement absente. Les gens ne savaient pas ce que ça pouvait signifier, le nationalisme ou la nation. Il y avait une très grande différence entre l'arabité, l'uruba en arabe, c'est-à-dire le sentiment d'être arabe, et le nationalisme arabe. J'en veux pour preuve, par exemple, que les chiites en Irak, qui sont très majoritairement arabes, avaient pour dirigeants religieux et politiques des grands ayatollahs qui étaient pratiquement tous iraniens, d'origine et de nationalité, et ça ne posait aucun problème. Donc il y avait des appartenances locales très fortes, tribales, et au-dessus il y avait les appartenances à une confession. Les chiites se référaient donc aux autorités qui étaient dans les villes saintes, et les sunnites donc au sultan calife d'Istanbul. Mais ce qui est très important, c'est que l'idée nationale a été diffusée par la France et surtout par l'Angleterre, parmi les peuples de l'Empire ottoman, pour saper les bases justement de l'unité ottomane. Et on a vu à partir de 1914-1915 les Anglais et les Britanniques faire des promesses tous azimuts à tous les peuples de la région. On a fait des promesses aux Kurdes d'un État indépendant, aux Arméniens d'un État indépendant, aux Assyro-Chaldéens d'un foyer national dans la région de Hakkari, qui est aujourd'hui en Turquie, et dans la région du vilayet de Mossoul. On faisait des promesses également d'un foyer national juif, et en même temps, de façon concomitante aussi, on faisait des promesses aux Arabes. Les promesses, c'était en l'occurrence un marché qui disait « si vous vous révoltez en tant qu'Arabe contre les Turcs et que vous aidez les alliés à vaincre l'armée ottomane, nous nous engageons à vous aider à fonder un royaume arabe unifié sous la direction d'un des enfants du shérif Hussein de la Mecque. » Et il était même spécifié qu'il y aurait éventuellement un transfert du califat ottoman turc, donc, vers un califat arabe.
Califat ottoman qui avait été aboli en 1924, c'est ça, hein ?
À l'époque, il n'était pas encore aboli. Quand les promesses ont été faites, c'était simplement une façon de flatter, je dirais, les sentiments arabistes qui étaient encore balbutiants, surtout en Irak, et qui commençaient seulement à voir le jour au Liban, enfin au Levant de façon générale, en disant « Regardez, les Turcs vous ont volé l'islam, le sultan est un usurpateur, le titre de calife doit revenir à un arabe et non pas à quelqu'un qui n'a aucun lien, à part des liens imaginaires, avec donc le prophète. » Toutes ces promesses ont été faites souvent sur des territoires qui étaient les mêmes. En même temps que ces promesses qui sont avérées, puisqu'elles ont été publiées notamment dans la correspondance entre Sir Henry McMahon, qui était le résident britannique au Caire, et le shérif Hussein de la Mecque, donc ce sont des choses avérées scientifiquement et historiquement, ces promesses étaient en même temps confrontées à des accords secrets. On en a parlé, les accords Sykes-Picot, qui en fait divisaient le Moyen-Orient en zones d'influence française et en zones d'influence britannique. Dans la zone d'influence française, il y avait la Syrie, le Liban et le vilayet de Mossoul. Mossoul, dont on ne savait pas trop à l'époque quoi faire. Est-ce qu'il devait revenir à l'Irak, à la Turquie ou à un royaume arabe, donc qui était donné à la présence, à une zone d'influence française. Et finalement...
Et un autre vilayet, d'ailleurs, dont il a été beaucoup question, qui est revenu à la Turquie par la suite, celui d'Antioche.
Voilà, il y a eu un partage du Moyen-Orient, de fondation à partir de 1920, lors d'une conférence à San Remo en Italie, où d'ailleurs il n'y avait aucun représentant arabe, fondation d'État arabe croupion, avec des frontières artificielles. Et on va voir que ces États vont être en fait imposés chacun à leur propre société. L'exemple encore de l'État irakien est probant, puisque en 83 années, entre 1920 et 2003, date de la chute du régime de Saddam Hussein, qui est également l'année de l'effondrement du premier État irakien, cet État n'aura connu que quelques années de paix. Mais entre 1920 et 2003, il y a eu une guerre permanente menée par les différents gouvernements irakiens contre les chiites et contre les Kurdes. Voilà, les quelques années de paix se réduisant aux quelques premiers mois du régime républicain sous la présidence du général Qassem en 1958 et au début du régime de Saddam Hussein. Mais sinon...
Donc ce que vous dites, c'est que si on considère l'Irak spécifiquement, vous direz que cet État qui a été fondé en agrégeant finalement des populations et des entités très différentes. Vous avez parlé des chiites plutôt du sud et du Bas-Euphrate, puis les sunnites, les sunnites et puis les Kurdes, que cette osmose-là ne s'est jamais faite. On avait quand même vu sous Saddam Hussein, vous venez d'en parler, que lorsqu'il a déclenché la guerre contre l'Iran, donc en 1980, on a vu par exemple les chiites d'Irak. On pensait que les chiites d'Irak peut-être ne refuseraient de se battre contre les chiites d'Iran. Or, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, ils ont accepté de se battre contre les chiites iraniens, comme si finalement il y avait quand même un fait national irakien qui avait fini par se constituer. Alors, est-ce que c'était une illusion ou est-ce que c'est à l'époque ça représentait quelque chose?
Alors, il y a eu effectivement dans tous ces pays, Liban, Syrie, Irak, Jordanie aussi, qui est aussi une création mandataire, puisque tous ces États dont j'ai parlé, au lieu d'être des États indépendants, ont aussitôt été mis sous la houlette de mandats français et britanniques. Donc la France a eu le mandat sur le Liban et la Syrie, la Grande-Bretagne sur la Transjordanie et sur l'Irak. Mais ces États ont suscité pendant quelques dizaines d'années des illusions nationales. Ce que j'appelle des illusions nationales, c'est une période durant laquelle il y a eu des partis politiques qui avançaient l'idée que la réforme sociale ou la lutte nationaliste pouvait résoudre les problèmes d'illégitimité de ces États aux yeux de nombre de leurs citoyens. Ça a été les périodes où l'on a vu fleurir notamment les partis communistes, le parti communiste irakien qui avançait donc l'idée selon laquelle il y avait certes un problème confessionnel en Irak qui faisait que les chiites étaient dominés socialement et politiquement, mais que ça pouvait être résolu par la réforme sociale. Les partis nationalistes arabes aussi ont été des partis transcommunautaires. En gros, ça a duré de 1930, je dirais, à la fin des années 60. Mais en ce qui concerne la période dont vous me parlez, donc la guerre Iran-Irak, là, on ne peut absolument pas dire que la communauté chiite a adhéré à un nationalisme irakien qui avait déjà fait long feu, puisque si Saddam Hussein a lancé sa guerre contre l'Iran en 1980, c'était pour sauver son régime de la renaissance d'un mouvement religieux chiite après plusieurs dizaines d'années de traversée du désert. Donc on voyait les villes saintes chiites à nouveau avoir avancé l'idée que le clergé avait un rôle politique éminent à jouer. Et,
on était juste un an après, d'ailleurs, après le retour de l'imam de l'Ayatollah Khomeini.
Voilà, si on fait une comparaison, par exemple, avec les chiites irakiens qui se sont battus du côté de la République islamique. Il suffit d'aller à Téhéran, par exemple, pour voir qu'il y a de nombreux cimetières de martyrs chiites irakiens, hein, notamment dans le cimetière de Behesht Zahra à Téhéran et à Tarteh-Foulad à Isfahan. Sur des kilomètres et des kilomètres, on a la manifestation du fait que, contrairement à ce qu'on a pu vouloir dire, notamment en France, les chiites ne se sont pas solidarisés avec le régime de Saddam Hussein. Ceux qui se sont battus au sein de l'armée irakienne l'ont fait simplement parce qu'ils étaient contraints et forcés, que le régime ne leur laissait pas le choix. Tous ceux qui ont déserté, se sont battus du côté de la République islamique, ont vu leur famille aussitôt arrêtée et soumise à des répressions féroces.
Donc quand la classe politique française dans les années 70 chantait les louanges de Saddam Hussein en disant c'est un nationaliste irakien
laïque,
qui va nous protéger de l'expansion de la théocratie iranienne, c'était une illusion.
Alors, Saddam Hussein, d'une part, avait laissé la laïcité du Parti Basse depuis déjà un certain nombre d'années pour faire un retour à un islam sunnite, qui était un islam extrêmement exclusif. Et on a vu au fil des années 1970 un discours de plus en plus anti-chiite qui a été même jusqu'à remettre en cause l'arabité et l'irakité des chiites irakiens qui sont arabes pour 90% d'entre eux et qui sont la majorité du pays. Donc il y a eu une sunnitisation du régime de Saddam Hussein. D'ailleurs, on voit qu'il y a une très grande communauté dans l'anti-chiisme entre le discours de Saddam Hussein et celui de l'État islamique. Dans le fait d'excommunier les chiites, hein, je rappelle que les chiites appellent l'État islamique les takfiris, c'est-à-dire les excommunicateurs, et Saddam Hussein avait déjà mis le doigt dans cet engrenage d'exclusion d'une partie, la partie la plus importante de sa population. Quant à savoir si Saddam Hussein a été efficace pour contrer la révolution islamique, là, par contre, il a joué un rôle important dans la mesure où l'armée irakienne a été le bras armé des puissances occidentales et des pétromonarchies du Golfe contre la révolution islamique. Et là, on est obligé de reconnaître que l'armée irakienne a réussi à contenir la révolution islamique et d'une certaine façon à sauver les pétromonarchies dont l'angoisse extrêmement grande à l'époque était de voir, notamment en Arabie Saoudite, les minorités chiites prendre fait et cause pour la révolution islamique.
Alors vous êtes revenu de vous-même là, justement, à l'État islamique en disant qu'il y avait que Saddam Hussein et l'État islamique avait donc il y avait des passerelles, hein. On l'a vu récemment, puisque parmi les éléments qui expliquent la réussite actuelle de l'État islamique, il y a le fait que sur le plan militaire, ces milices aient intégré dans leur rang un certain nombre d'officiers de l'ancienne armée de Saddam Hussein, qui armée dont on sait qu'elle a été démantelée lors de l'invasion américaine, et que beaucoup de ces militaires, beaucoup de ces officiers qui étaient des militaires capables, hein, se sont retrouvés sans emploi, et beaucoup d'entre eux se sont, semble-t-il, mis au service de cette idéologie islamiste violente. Est-ce que c'est au nom d'un projet islamiste pur et dur, ou est-ce que c'est au nom d'une reconquête de l'État irakien par la composante sunnite, dont je rappelle qu'elle représente environ 20% de la population de l'Irak, hein, à peu près.
Oui, la passerelle que vous évoquez entre Saddam Hussein et l'État islamique est une passerelle confessionnelle. Parce que je me souviens que parmi les accusations mensongères contre le régime de Bagdad, qui allait aboutir à la guerre de 2003, donc la guerre lancée par George Bush contre l'Irak, il y avait les liens présumés de Saddam Hussein avec Al-Qaïda, hein, plus les armes de destruction massive et un certain nombre d'accusations auxquelles d'ailleurs ceux aux États-Unis qui les lançaient ne croyaient même pas, puisque les États-Unis étaient les mieux informés que quiconque de ce qui se passait en Irak. Donc voilà, cette passerelle ne signifie pas qu'il y a eu une connivence entre le régime de Saddam Hussein et les salafistes. À l'époque du régime de Saddam Hussein, on peut dire que toutes les tendances politiques, y compris les bassistes, étaient réprimées. Le parti basse était vidé de sa substance pour devenir simplement un simple ascenseur social et par le biais de solidarité clanique et de jeu de hasabiya, comme on dit en arabe, c'est-à-dire de solidarité locale. Mais Saddam Hussein, d'ailleurs, on le sait à travers l'histoire du calife autoproclamé Abu Bakr el-Baghdadi, le calife de l'État islamique, avait également réprimé les mouvements salafistes, même si, à la fin de son régime, il avait repris une grande partie de la rhétorique salafiste contre les chiites. Mais, en revanche, ce qui a motivé le ralliement de l'establishment bassiste, entre guillemets, à l'État islamique, c'est bien donc une logique confessionnelle qui est la suivante. Les Arabes sunnites d'Irak, qui représentent 20% de la population irakienne, ont soutenu l'État irakien fondé par les Britanniques en 1920 à la condition d'en avoir le monopole. C'est ce qui s'est passé entre 1920 et 2003. Les chiites et les kurdes, qui représentent 75% de la population, ont été exclus politiquement. À partir de 2003, les Américains ont pris les exclus de l'ancien système, les chiites et les kurdes, pas par amour particulier pour les chiites, on s'imagine, puisque la plupart d'entre eux rentraient tout droit d'Iran ou de Syrie, mais parce qu'il leur fallait reconstruire dans l'urgence des institutions pour contrer une insurrection qui prenait de l'ampleur un peu plus chaque jour. Et finalement, il s'est trouvé que les exclus étaient ceux qui avaient bénéficié, qui avaient monopolisé le pouvoir pendant près d'un siècle. Donc, aujourd'hui, cet establishment ex-bassiste a rallié l'État islamique parce que l'État islamique est, sur la scène politique arabe sunnite d'Irak, le seul qui prend en compte le refus de cette communauté de vivre en tant que communauté minoritaire et sans ressources, ce qui est effectivement le destin qui est le leur dans le système politique en place. Puisqu'on le sait, si on regarde, c'est dommage, on n'a pas de carte de l'Irak, mais les zones occupées par l'État islamique, qui sont les zones arabes sunnites, en gros, ont très peu de richesses pétrolières ou gazières. En revanche, les chiites et les kurdes ont énormément de ces richesses. Et l'État islamique, en proclamant l'effacement, je reviens à l'effacement de la frontière Saxe-Picot, montrait une voie aux sunnites d'Irak qui était celle d'un retour à une injustice originelle qui avait été faite aux Arabes donc en 1920 en disant « Refusez le statut qui vous est fait, vous ne serez jamais qu'une communauté marginalisée en Irak et rejoignez vos frères arabes sunnites de Syrie qui sont dans une même situation que vous, dirigés par des chiites et des apostats. »
Alors, ce qu'on voit clairement, Pierre-Jean Luizard, c'est que l'État islamique donc considère que la frontière irako-syrienne n'existe pas. Par ailleurs, la frontière, il y a la frontière qui sépare l'Irak et la Syrie de la Turquie, dont on voit que c'est une frontière relativement poreuse, puisque la Turquie sunnite a des relations assez ambiguës avec Daesh. Par contre, est-ce que vous avez l'impression que l'État islamique tel qu'il s'est développé depuis un an sur le plan territorial et donc qui occupe, alors le terme d'occupation était peut-être à expliquer puisque ce sont des zones quand même qui sont largement vides. Il y a essentiellement la vallée de l'Euphrate qui est donc avec des villes, des résorts, Raqqa, donc les différentes villes qui jalonnent le cours de l'Euphrate, mais évidemment autour il y a beaucoup de régions désertiques. Est-ce que la région qui est dominée par Daesh aujourd'hui est une région exclusivement sunnite? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que chaque fois que l'État islamique a tenté de sortir un petit peu de ces terrains-là. Je pense à Kobané, je pense à la ligne kurde, je pense aux villes qui marquent peut-être la frontière du pays chiite au plus au sud. Finalement, est-ce que Daesh n'est pas de facto cantonné à un espace large, mais à un espace sunno-sunnite, quoi, hein.
Voilà, c'était l'ambition de l'État islamique en juin 2014, lorsqu'il a réalisé qu'il avait occupé un tiers de l'Irak, pratiquement sans tirer un coup de feu, et notamment Mossoul, la deuxième ville de l'Irak, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, mais qui sont facilement explicables par un refus des populations arabes sunnites du sort qui leur a été fait dans les systèmes politiques en place. L'État islamique avait sur sa lancée l'ambition d'occuper le plus grand nombre de territoires possibles, et il avait en ligne de mire notamment Bagdad, hein, qui était le siège du califat arabe, du dernier califat arabe, donc à l'époque abbasside. Et il y a eu là un jeu communautaire assez complexe. Bon, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails, mais il y a eu une duplicité d'une partie des dirigeants kurdes qui a permis à l'État islamique donc de s'avancer aux portes de Bagdad, ce qui a suscité une réaction extrêmement véhémente de la part des chiites, avec l'appel au djihad d'Ayatollah Sistani, qui est la plus grande autorité religieuse chiite, appelant donc les chiites à former des milices pour combattre l'État islamique.
Les fameuses milices qui sont en train d'ailleurs d'agir milices, là, voilà. Du côté de Tikrit. Hein,
et l'État islamique s'est trouvé arrêté net dans sa progression aux portes de Bagdad, à la suite de quoi un certain nombre de territoires mixtes, arabes, kurdes, turkmènes, sunnites, chiites, que l'État islamique avait réussi à occuper, ont été reconquis par l'armée irakienne et par les milices chiites, donc dans le courant de l'automne 2014, ce qui a manifesté aux dirigeants de l'État islamique le fait qu'en Irak, le pays kurde et le pays chiite leur étaient fermés, qu'ils ne pourraient jamais conquérir Bagdad et que donc ils avaient une base communautaire assez réduite. Les dirigeants de l'État islamique ont donc imaginé une autre stratégie qui visait à occulter l'étroitesse de leur base sociale et de leur base confessionnelle. Donc il y a eu d'abord cette politique visant à dire les frontières n'existent plus, l'État islamique en Irak et au Levant a changé de nom, maintenant c'est l'État islamique, donc c'est un État sans frontières avec tout ce que ça a de menaçant. Et on le voit aujourd'hui, hein, l'État islamique est en Égypte, en Tunisie, au Nigeria, si on veut.
En tout cas, il le prétend. Disons qu'il y a un certain nombre de groupes qui se réclament de lui.
Au Yémen. Et il y a eu la formation des premières provinces transfrontalières de l'État islamique, notamment la province de l'Euphrate, ou l'Ayat al-Furat, qui réunit des territoires syriens et des territoires irakiens. Et tout ceci vise, pour l'État islamique, à montrer qu'il n'est pas enfermé dans une logique confessionnelle, mais qu'il est l'avant-garde des musulmans sunnites dans l'ensemble de la région face à des États qui sont des États illégitimes du fait de leur origine mandataire, de leur origine coloniale, et du fait aussi, ça c'est très important, du fait que ces États ont toujours été un peu la cible de minorités. Chaque État a été tour à tour, notamment en Irak, donc monopolisé par la minorité arabe sunnite en Irak, et en Syrie, même si ça a été plus tardif, on a vu que l'armée, le parti Baas, ont été investis par des minorités Alaouite, Druze, Ismaélienne. Bon, il y a évidemment la minorité chrétienne au Liban, mais voilà, toute chose que l'État islamique a mis en avant pour se prétendre, avec un certain succès, le premier héritier des printemps arabes de 2011. Voilà, pour nous, évidemment, voilà, c'est.
Alors évidemment, avec un projet totalitaire.
C'est quelque chose qui pour nous, on se souvient des printemps arabes et des mots d'ordre qui étaient ceux des sociétés civiles pour la liberté d'expression, contre l'autoritarisme, contre la corruption, contre la misère, contre les régimes autoritaires. Et on se dit comment, effectivement, peut-on en arriver aujourd'hui à un point où le principal protagoniste qui se réclame des printemps arabes voilà, réduit des femmes et des enfants en esclavage, détruit des minorités. Mais il faut bien comprendre que dans l'état d'esprit qui...
Parce que la destruction des minorités, il ne faut quand même pas passer sous silence, évidemment. Voilà, le sort des yazidis, le sort des chrétiens d'Irak qui ont été chassés de leur zone
comment
historique.
Comment expliquer ce basculement, notamment en Syrie, et le fait, par exemple, que l'occupation américaine de l'Irak et le printemps arabe de 2011 en Syrie ont abouti au même résultat. C'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que d'un côté, on a une occupation étrangère, de l'autre côté, on a l'émergence d'une société civile qui remet en cause de façon légitime des mots d'ordre dans lesquels nous nous reconnaissons tous, enfin, du moins une grande partie d'entre nous. Comment expliquer qu'on en soit arrivé donc à cette dégénérescence confessionnelle et au fait que le discours de l'État islamique, qui se veut le principal adversaire des États répressif, et c'est vrai qu'en Syrie, bon, là, c'est pas la peine de faire des longs discours, l'État est répressif, mais le gouvernement irakien de Bagdad l'a été aussi, et c'est une chose qu'on nous a beaucoup cachée, notamment en France, où nous étions très préoccupés pour...
Vous parlez de l'État irakien post-Saddam. Hein.
L'État de Nouri al-Maliki, le gouvernement de
Nouri al-Maliki. Oui.
Parce qu'en France, nous avions beaucoup à nous faire pardonner vis-à-vis des Kurdes et vis-à-vis des chiites, et donc du gouvernement à majorité chiite, pour notre refus d'entrer en guerre en 2003, hein, vous vous souvenez. Et donc, il y avait évidemment une très grande réticence de la part de la diplomatie française à critiquer nos alliés, nos amis kurdes et nos amis du gouvernement irakien, qui était le seul gouvernement que nous représentions. Donc, nous avons occulté pendant des mois la répression, une répression contre des mouvements qui... Il y a eu un printemps arabe en Irak, hein, 2011, qui s'est développé chez les Kurdes, chez les chiites et chez les sunnites. Or, ces printemps arabes ont été réprimés dans le sang. Ça a été notamment vrai chez les sunnites, où on a vu le gouvernement de Nouri al-Maliki utiliser les mêmes barils de poudre bourrés de TNT sur des sit-ins et des manifestations pacifiques qui ne faisaient que réclamer...
Dans quels endroits, ça ?
À Mossoul, à Fallujah et à Tikrit.
Donc, dans les zones sunnites.
Voilà. Et il y a eu utilisation de l'artillerie lourde, de l'aviation pour bombarder.
Alors évidemment, ça aide beaucoup à comprendre pourquoi le pays sunnite s'est rangé derrière l'État islamique, ou en tout cas, sinon c'est pas rangé, est-ce qu'il voilà. s'est vraiment rangé derrière lui, ou en tout cas l'a laissé rentrer.
Ça aide à comprendre que pour une majorité des habitants de Mossoul, de Tikrit et de Fallujah, la sécurité et l'état de droit aujourd'hui, c'est l'État islamique et non pas le gouvernement irakien, qui, pour les habitants de chaque pays, continue à symboliser la loi des milices, les exécutions extrajudiciaires, la corruption, toutes choses qui ont été totalement modifiées dans le sens du meilleur, à partir du moment où l'État islamique a investi ses villes. Et ça, évidemment, sont des choses qu'on ne sait pas. Et si on ne les prend pas en compte, on ne peut pas comprendre le soutien que ces populations continuent à accorder aujourd'hui à l'État islamique. islamique.
Alors pour autant qu'on sache, puisqu'on parle d'État islamique, vous avez dit c'est un État en formation. Comment aujourd'hui exerce-t-il son pouvoir dans les zones qu'il occupe? Les avis divergent. Hein, enfin, bon, les informations sont assez fragmentaires. Bon, on sait certaines choses, on n'en sait pas d'autres. Il semblerait que l'État islamique s'appuie sur des structures quand même, des structures, des notables, sur des que l'État islamique demande une sorte d'allégeance aux pouvoirs municipaux, régionaux en place, mais ne cherche pas à se mêler de tout, cherche en revanche à une forme d'allégeance au moins formelle, l'application de la charia, et que parmi les éléments qui lui assurent un certain soutien public, il y a le fait que les prix, il assure une certaine stabilité des prix, un certain approvisionnement dans les zones entre guillemets libérées, et donc permettent à la population d'avoir le sentiment qu'on a lutté contre la corruption d'un État irakien qui lui était perçu comme extrêmement corrompu. Alors est-ce que ces explications-là tiennent et est-ce qu'elles vont tenir longtemps? Voilà, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que cette impression que des populations d'avoir un État en formation qui quand même assure un certain nombre de services, bien qu'il soit par ailleurs totalitaire et répressif. Dans quel sens penche la balance? Est-ce qu'elle penche plutôt du côté de la satisfaction à court terme, ou est-ce qu'il va y avoir un retour de balancier?
Alors il y a une recette qui explique en grande partie le soutien à l'État islamique des populations qui vivent aujourd'hui sous son régime. C'est le fait que l'État islamique a tiré les leçons des erreurs d'Al-Qaïda, et notamment en Irak, lorsque Al-Qaïda avait momentanément occupé Fallujah, donc cette ville à 60 km à l'ouest de Bagdad, qui est donc la première grande ville de la province d'Al-Anbar, à majorité arabe sunnite. Contre les Américains en 2003 et en 2004, la population de la ville s'était soulevée contre l'occupation américaine, et elle avait été très vite mise sous l'autorité de groupes d'Al-Qaïda dont la majorité n'était pas des gens du CRU. Il y avait beaucoup de combattants étrangers, saoudiens, égyptiens, libyens, maghrébins. Et très vite, la population et les notables locaux, les chefs de tribu, les chefs de clan, les chefs de milices locales, s'étaient rebellés contre une autorité qui venait de l'extérieur. Et c'est ce qu'a compris l'État islamique. C'est ce qui continue à faire aujourd'hui une grande partie de son succès. C'est le fait qu'il sait gérer un paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'il a un très grand respect pour le localisme. L'État islamique, quand il a investi en juin et avant juin 2014, en janvier 2014 pour Fallujah, les villes, les villages, donc il a bouté l'armée irakienne ou l'armée syrienne ou d'autres groupes djihadistes en dehors des endroits qu'il avait conquis. Et très rapidement, le lendemain ou le surlendemain, il y avait une cérémonie de remise du pouvoir où il déléguait le pouvoir local, donc dans les villes et les villages, à des acteurs locaux. Ces acteurs locaux, qui étaient-ils? C'était donc des chefs dans les grandes villes, des chefs de quartier, à Mossoul notamment, avec leurs milices, des chefs de clan, des notables locaux, l'ex-establishment sunnite de l'époque de Saddam Hussein, et on le verra de façon croissante, donc le leadership militaire de l'époque de Saddam Hussein, qui était majoritairement sunnite et qui a rejoint donc les rangs de l'État islamique au fur et à mesure de la répression contre les sunnites et de l'échec de l'intégration des sunnites dans le système politique. Alors, c'est donc un localisme extrêmement respectueux auquel l'État islamique s'est tenu.
Ce qui permet d'ailleurs de ne pas occuper des effectifs qui ne sont pas forcément extensibles pour faire de l'occupation pure, alors qu'ils ont besoin de se battre ailleurs.
Exactement. Mossoul, la ville de Mossoul aujourd'hui, alors que Je me souviens à l'époque du gouvernement où l'armée irakienne occupait la ville. Pour faire 300 mètres, des fois, ça prenait une heure et demie, parce qu'il y avait des barrages. Souvent, on ne savait pas trop à qui on avait affaire. Il y avait des milices. Il fallait graisser la patte des uns et des autres pour pouvoir passer. Aujourd'hui, je le sais. Je ne suis pas retourné à Mossoul depuis que l'État islamique occupe la ville, mais je le sais par mes correspondants, on circule dans la ville en toute sécurité. Il n'y a plus de barrage. L'État islamique a redistribué ses forces autour de la ville, et ce sont les habitants de la ville qui aujourd'hui font la police dans la ville.
Enfin, il faut quand même préciser qu'il y a quand même un tiers de la population qui a fui.
Voilà, un tiers de la population a fui, notamment les minorités religieuses, les chrétiens, et ceux qui s'étaient beaucoup impliqués dans les fameux conseils de réveil, qui étaient ces conseils, ces milices payées par les Américains à condition qu'elles se retournent contre Al-Qaïda. Mais quand l'État islamique a investi Mossoul, la majorité de la population était, on va dire, passive. Elle n'était pas salafiste. C'est avec le temps, mais je dois dire assez rapidement, que j'ai pu réaliser que ce qui n'était au début qu'une simple labellisation pour des populations qui n'avaient pas de représentants politiques est devenu une adhésion de plus en plus large à un projet politique. Parce que, voilà,
donc vous croyez à la viabilité de l'État islamique dans les zones qu'il a conquises.
Si Fallujah, qui est maintenant depuis plus d'un an à 60 km de la capitale irakienne sous le contrôle de l'État islamique, n'a pas été reprise, il y a quand même bien des raisons. Mais voilà, sur les raisons du succès de l'État islamique, il y a donc un localisme auquel l'État islamique s'est tenu. Et il y a en même temps l'imposition d'un drapeau unique. Et ce drapeau unique, c'est donc l'État islamique, la personne du calife. Et ceci a été compris de façon très symbolique par les différents protagonistes qui étaient dont la base était très locale, donc susceptible de division à l'infini. On sait que c'est le propre des politiques tribales que d'être susceptible de se diviser d'un clan à l'autre, d'un quartier à l'autre. Cette référence à un drapeau unique a été très vite compris comme une assurance de ne pas se diviser. Parce que dans la division, ces groupes n'étaient rien d'autre qu'une milice de quartier. Et là, l'État islamique leur donnait non seulement la possibilité d'une sortie vers le haut, au-delà même des frontières de l'Irak, et d'apparaître non plus comme une simple milice de quartier, mais comme l'avant-garde armée d'un nouvel État en formation dont on se réclame, comme on l'a dit maintenant, jusqu'au Nigeria.
Et donc c'est un peu la différence entre l'État islamique et Al-Qaïda. Al-Qaïda, on a souvent dit que c'était une franchise, une marque. L'État islamique, c'est un peu plus qu'une marque, parce que c'est une labellisation, comme vous venez de le dire, c'est une marque aussi, mais une marque avec un territoire, et ça fait toute la différence.
C'est les deux, c'est ce qu'elle n'avait pas compris Al-Qaïda et c'est ce qu'a compris l'État islamique, c'est-à-dire c'est une labellisation dans la mesure où l'État islamique n'intervient pas, par exemple à Mossoul, il laisse les acteurs locaux régler les affaires locales, à l'exception de deux domaines où l'État islamique est implacable. Il y a la lutte contre la corruption. Là, l'État islamique est intervenu à plusieurs reprises à l'intérieur de Mossoul pour châtier des corrompus, donc à coups de crucifixion sur la place publique ou de décapitation. Ça a été quelque chose qui a été accepté par la population.
Est-ce que ce sont des supplices d'ailleurs qui sont acceptés par la charia ? Quand même pas.
La charia peut être heureusement interprétée de mille façons différentes, c'était effectivement à l'époque du prophète un châtiment qui était réservé à ceux qui étaient accusés de corruption.
Sympathique.
Mais si vous voulez, ça a été couplé par une propagande extrêmement savante de l'État islamique. D'abord, une réalité, le fait que la corruption qui provoquait des flambées des prix pour des denrées essentielles à l'époque du gouvernement irakien. En l'espace des fois d'une journée, on a vu les prix baisser, divisés par deux ou par trois, puisqu'à l'époque du gouvernement irakien, il y avait quelques notables locaux qui tiraient les ficelles et qui provoquaient des pénuries artificielles. Donc il y a eu une acceptation de ces châtiments de la part de la population quand elle a vu que les marchés étaient d'un seul coup très bien approvisionnés à des prix qui étaient imbattables, qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Et il y a eu aussi une acceptation du fait que les corrompus désignés étaient souvent ceux qui étaient désignés par la population comme les responsables des exécutions extrajudiciaires. Il y a eu notamment une scène qui a été très médiatisée par l'État islamique. C'était en août 2014, où on voit des miliciens de l'État islamique investir un palais à Mossoul. Et le palais en question, c'est le palais d'Oussama Nujaifi. Oussama Nujaifi, c'est l'un des rares politiciens sunnites à avoir rallié le gouvernement de Nourine Maliki et à être toujours en place. Il a été président du Parlement irakien et aujourd'hui, il est vice-président, entre guillemets, sunnite de la République d'Irak, mais il faisait partie de cette classe sunnite qui s'était ralliée au système politique fondé sous le patronage américain. Et donc, dans cette vidéo, on voit les miliciens investir le palais. Ils vont avec un mimétisme évident voulu avec ce qui avait été fait avec les palais de Ben Ali ou ceux de Saddam Hussein, donc au moment de la chute de ces régimes. Ils vont dans les sous-sols et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Des tonnes de lingots d'or et de dollars, de l'argent que les corrompus avaient volé au peuple. Donc, je cite la vidéo. Et le lendemain, lors d'une grande cérémonie sur une des grandes places de Mossoul, l'État islamique a restitué l'argent au peuple. Donc voilà, il faut...
Mais pas celui de la banque de Mossoul, je crois.
Alors, pas celui de la banque de Mossoul, mais celui de la banque de Mossoul était aussi un argent qui avait été acquis. On sait comment les banques, notamment dans les capitales provinciales, fonctionnaient et comment elles alimentaient beaucoup des réseaux de clientélisme qui étaient liés à des ministres ou à des gens liés au gouvernement. Donc voilà, c'est pour dire que l'État islamique s'est réservé certains domaines d'intervention dans les affaires locales sur des sujets qui ont été acceptés par la population parce qu'elle y a vu un mieux, tout du moins dans les premières semaines ou dans les premiers mois de l'occupation par l'État islamique.